Direct en jeu, la radio insolite. On va partir dans un domaine un peu spécial, assez conséquent. Imaginez, il est photographe, ex-professeur d'histoire géo. Il a été barman. Et puis, il est quand même revenu, j'allais dire, à ses premiers amours. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Oh, attends, catastrophe, j'ai oublié. Il est comédien, il est voyageur. C'est tout ?
À peu près, on a fait le tour.
Ah, on a fait le tour, oui, c'est le cas de le dire, oui. Bonjour, Fabrice Delorme, qui officiellement, d'après les infos que j'ai, comédien.
Exactement.
Alors, attends, il fallait être comédien, il fallait être voyageur, photographe, ex-professeur d'histoire géo et de français, barman, pour en arriver à être comédien ?
Oui, c'est comédien, c'est un chemin. Parce que comédien, c'est une trajectoire. On est comédien de toute façon depuis qu'on est tout petit. Les meilleurs comédiens sont les enfants. Quand vous les regardez jouer, on porte tout ça en nous. Après, il faut que ça grandisse. C'est comme une plante qui grandit en soi. Il faut bien l'arroser. Et il a fallu que je fasse tout ça pour bien la nourrir.
Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, après avoir fait tout ça, de rentrer dans la comédie ? T'avais quand même des métiers sérieux avant.
Ouais, mais comédien, c'est un métier sérieux. Non, mais c'est parti très jeune. Hein. C'est parti, j'avais 12, 13, 14 ans, un professeur de français. Encore eux, souvent, on travaillait Rhinocéros de UNESCO. On a monté la pièce, ça m'a marqué. Et puis après, j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean Guichard, qui dirigeait les théâtres des Pays de la Loire, et travailler au conservatoire d'Angers. J'ai suivi la troupe de Jean Guichard. J'ai eu le plaisir de le voir jouer en compagnie de Dora Dol, les chaises de UNESCO. Ça a été de grands moments, parce que Dora Dol, magnifique comédienne. Et puis après, j'ai tout bazardé, en fait. Je suis arrivé à Paris et j'ai tenté le concours du conservatoire. Je n'ai pas été pris. Et je me suis dit, peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Donc, j'ai tâté ailleurs. J'ai fait de l'histoire parce que j'adore raconter des histoires. Et puis j'ai eu l'opportunité de partir accompagner un journaliste en Afrique du Sud en tant que photographe. Donc j'ai passé pas mal de temps là-bas, je suis revenu et du coup j'ai eu un petit peu le virus du voyage. Donc je suis parti aux États-Unis, je suis revenu. Et puis à un moment il fallait se fixer, donc il fallait retrouver une voie. Et la voie était toujours celle de l'histoire. Et donc figure-toi que j'ai travaillé sur quelque chose... Un sujet sur lequel on travaille pas beaucoup, mais dont on parle beaucoup, c'est la police. Mmh. Et donc, j'ai fait une thèse d'histoire sur l'histoire de la police. Ça m'a fait découvrir plein de choses. Et puis de là, je suis parti dans l'enseignement, parce que c'est un petit peu la voie classique quand on arrive dans les études. Et puis, jusqu'au jour où ça arrive à certains d'entre nous, on se retrouve devant une classe et puis on écrit des choses au tableau et puis on se retourne vers la classe, on voit toutes ces têtes blondes et moins blondes nous regarder avec des yeux effarés, on se dit mais qu'est-ce que je fous là. et voilà, et je me suis dit, peut-être qu'à ce moment-là je me suis rendu compte que expliquer pour la 15e fois l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, il y avait peut-être une autre manière de le faire si ça rentrait pas en fait. Et je me suis dit qu'il fallait retourner sur les planches en fait. Et là j'ai eu le grand bonheur de faire la connaissance de Jean-Laurent Cochet, d'intégrer son cours et sa classe professionnelle. Et puis très vite, en fait, de jouer avec lui en 2013 dans Anouilh, d'Anouilh. Voilà, ça a été une vraie révélation parce que on l'appelle toujours le maître du théâtre, mais c'est vrai que c'est le maître du théâtre. J'en ai eu des professeurs de théâtre avant, et j'avoue que lui, par quelques mots qui paraissaient juste magiques, il ouvrait des voies de l'imaginaire qui étaient juste incroyables.
Il y a une chose que j'ai trouvé géniale dans ton parcours, avant de parler évidemment comme de la pièce dont on va parler, c'est-à-dire l'ambigu dans les topores, c'est que tu as été bénévole à l'hôpital Necker pour lire au chevet et à la radio des contes, des romans, du théâtre et des nouvelles. Je trouve ça assez extraordinaire.
Ouais, ça a été une très 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 belle aventure et j'espère que je vais pouvoir la poursuivre, cette aventure, à plusieurs d'ailleurs, à une époque où, dans les années 2015, 2016, où je n'avais pas trop de travail comme comédien, ça me démangeait, On est tous là à ronger son frein et je voulais pas rester à attendre que le téléphone sonne. Et ça faisait longtemps que moi je suis un fou de lecture. J'avais envie de partager en fait des lectures. L'hôpital, c'est un lieu aussi que j'ai connu quand j'étais enfant et donc je me suis dit tiens, j'ai envie d'apporter ça. Et à l'hôpital Necker, il se trouve qu'ils avaient une radio. C'est une longue histoire. Je pourrais vous la résumer en quelques phrases. Il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années, en fait, il y a un centre socioculturel qui a été monté dans l'hôpital Necker qui s'appelle l'Espace Spatial. Et des adolescents à l'époque, les hospitalisations duraient beaucoup plus longtemps. Ils restaient 1 mois, 2 mois. S'ennuyaient, avaient réussi à récupérer du matériel de radio. Et ils avaient fait une radio FM directement dans l'hôpital. Et puis, cette radio, peu à peu, est tombée en désuétude. Elle n'était plus utilisée. Et quand j'ai su qu'il y avait ce média-là, au cœur de l'hôpital, qui permettait, en fait, de diffuser directement dans les chambres, ça voulait dire qu'en fait, on pouvait raconter des histoires et que les enfants qui étaient hospitalisés, qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre, avaient aussi le droit un petit peu d'avoir de l'imaginaire parce que, vous savez, les chaînes de télé sont payantes. Donc, voilà. J'ai proposé ce projet. Il a été accepté. On a fait des émissions donc autour de la lecture. J'ai lu, je ne sais plus, une cinquantaine de livres, de nouvelles, de contes différents en l'espace de 3 ou 4 ans. Et cette initiative, en fait, a permis à l'hôpital de lancer un mécénat de compétences, a permis à l'hôpital Necker de pouvoir monter un studio radio dans l'hôpital. Et du coup, d'autres émissions ont été proposées. Voilà, ça a créé une dynamique. Et l'aventure continue.
Alors, je rappelle aux éditeurs qu'au début de Direct en jeu, on a agi avec la voix d'Ambroise Paris, qui était une radio interne, qui était faite par les patients avec Bernadette Garigouf. Et moi, je trouvais ça assez génial ce
Oui.
système, parce que justement, ça, c'est une des meilleures thérapies qui puisse exister. Bon, tu en arrives donc à. Alors, tu as cité certains artistes, certains auteurs assez réputés, et tu en arrives à croiser Roland Topor. Alors, c'est pas n'importe qui, puis en plus. J'allais dire, c'est un personnage un peu complexe quand même.
Oui, complexe et en même temps, enfin, touche à tout. Je crois qu'il est très droit dans ses baskets à lire tout ce qu'il a écrit, mais c'est un dessinateur, c'est un créatif. Il adore la télévision comme média, il adore le théâtre comme média. C'est un grand copain de Jean-Michel Ribes et de Reinhard Wagner, qui est moins connu peut-être pour les auditeurs, qui est compositeur de musique. À eux trois, ils ont formé un groupe de joyeux de riz et ils ont fait les belles heures du théâtre contemporain quand même à la fin dans les années 80, 1980. Et le théâtre était pour lui un lieu d'épanouissement, beaucoup plus que le dessin, puisque il est avant tout connu comme dessinateur et comme illustrateur,
Oui, tout
notamment
à fait, complètement.
chez Harakiri. Il avait le plaisir de l'écriture et le plaisir du théâtre. Je ne savais pas qu'il avait écrit autant, en fait. J'ai vraiment découvert l'homme. Je connaissais, en fait, ses lithographies, ses affiches, mais je ne savais pas. Enfin, et si, surtout, je me souvenais, en tant qu'enfant, de Téléchat et des Grues. On avait tous
Tu me
ça.
ramènes à l'ancien siècle, l'ancien millénaire, hein,
Ouais, c'est ça, exactement. On a tous ça. L'autruche et le chat, on l'a toujours en tête quelque part. Moi, quand j'étais gosse, ça me paraissait être un ovni, mais c'était un ovni fascinant, en fait. Cette émission qui est quasiment, en fait, du théâtre d'objets. Du théâtre d'objets à la télé. Il a inventé ça. Et j'ai découvert tous ces écrits, et ces écrits sont, comment dire, la pâte à modeler, la matière de ces affiches. Ce qu'on voit visuellement, il arrive à le mettre dans les mots et avec une écriture qui fuse dans tous les sens, qui est juste un vrai bonheur, en fait.
Et donc, tu te lances en tant que comédien pour une pièce qui s'appelle L'Ambigu, qui va démarrer le 14 mars. Alors, je me suis posé la question, comment présenter l'ambigu? Parce que c'est ambigu, c'est le cas de le dire. Alors, je te laisse le présenter, la pièce de théâtre.
Oh bah, je pense tout simplement par le pitch, Don Juan, c'est l'histoire de Don Juan vieillissant qui découvre qu'il abrite une femme en lui à son insu. Il en tombe amoureux et c'est le coup de foudre. Et évidemment, suite au coup de foudre, se passent mille folies, comme on peut l'imaginer.
Oui, c'est à peu près ça. Oui. Et le sujet, j'allais dire, est un peu d'époque quand même, aussi bien d'époque que d'aujourd'hui.
Ah, le sujet est complètement d'époque. Et c'est ça qui m'a fasciné à la lecture de ce texte. C'est-à-dire que ce que j'ai adoré dans ce texte, c'est qu'il n'y a aucune morale. Là où on voit partout dans l'actualité se battre les gens autour de la question du genre, autour de la question de l'identité, autour de la question de la masculinité, vous avez un topor qui va droit à l'essentiel. Et sans morale, sans jugement, qui est là juste pour nous faire ouvrir les yeux et nous faire regarder les choses en face. Et ça c'est génial. Et voilà, ces sujets-là sont traités d'une façon tout à fait originale.
Est-ce que c'est pas quelque chose qui va loin dans la psychologie, puisqu'on parle de la faille de l'être, on s'immisce dans l'univers des ressentis, des sentiments. Est-ce qu'on en ressort, alors en ayant passé un bon moment, ça j'en suis certain, mais est-ce qu'on en ressort complètement, j'allais dire complètement libre dans sa tête, ou est-ce qu'on s'interroge sur soi-même?
On en ressort complètement vitalisé, en fait, plein de vitalité, c'est-à-dire que, il s'adresse plus au corps qu'à la tête. Le corps est une puissance de vie,
Totalement.
et ça, il l'a très très bien compris, et c'est ça qui est vraiment en jeu. Je me parle à moi-même, mais en fait, je parle d'abord à mon corps, et c'est mon corps qui me transmet mes ressentis. J'ai pas à me poser mille questions psychologiques. C'est dans le mouvement de mon corps, dans le geste de mon corps que je sais ce qui se passe en moi. Et je vais aller à l'écoute de ça. C'est-à-dire que je le mets pas dans un coin pour pouvoir le cacher par honte ou par je ne sais quoi ou par culpabilité. Non, non, je regarde en face ce qui se passe en moi.
Est-ce que ça risque pas de choquer les consciences?
Non, et puis non, enfin, je pense pas. On peut toujours effectivement choquer, mais il nous invite à regarder les choses en face. Alors, si on est choqué en regardant les choses en face, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même.
Ouais.
Et donc là, on peut se poser des questions.
Oui. Dis-moi, cette pièce telle que j'ai vu la présentation, j'ai vu le synopsis, je me dis qu'elle pourrait très bien jouer dans les écoles en ce moment.
Ah oui, complètement. Complètement. On a un programme, on essaye effectivement de la faire jouer dans les écoles. On l'a déjà présentée à une classe de terminale en Ariège, puisqu'en fait la compagnie est basée en Ariège. On a une autre scolaire qui est prévue aussi en Ariège. Et là, on va faire le tour des lycées pour essayer de faire venir effectivement tous ces jeunes qui peuvent s'interroger sur ces questions-là. Mais vous savez que le pass culture était gelé, donc
Ah bon?
on va essayer d'y aller au forcing,
Ah bon?
parce que c'est pas évident. Et pour ceux, effectivement, qui ne feraient pas le lien tout à fait avec Topor, ou qui auraient cette image de Topor un peu vulgaire, un peu
Tout à fait.
violent,
Exact.
je voudrais leur dire juste que Topor, quelque part, rejoint Simone de Beauvoir. J'ai trouvé dans les écrits de Simone de Beauvoir, en faisant mes recherches autour de l'ambigu, un petit essai de Simone de Beauvoir qui a pour titre Pour une morale de l'ambiguïté. Et elle écrit dans ce petit essai, Essayons d'assumer notre fondamentale ambiguïté, c'est dans la connaissance des conditions authentiques de notre vie qu'il nous faut puiser la force de vivre et les raisons d'agir. Et ça serait une autre façon de résumer, en fait, cette ambiguïté du donjon. C'est vraiment en regardant les choses en face qu'on arrivera à comprendre notre fondamentale ambiguïté parce que nous sommes comme ça.
Tu es sur un deuxième temps fort ce soir, puisque tu es en... Alors, je ne sais pas si on dit dédicace ou lecture.
On va dire une lecture dédicace.
Mais merci, c'est gentil. Tu vas donc, ça fait partie quand même d'un truc assez original que je trouve, c'est-à-dire que ça va être des extraits de la pièce que vous allez prendre, que vous allez présenter ça.
Voilà. On va prendre des extraits de la pièce, on va les lancer un petit peu et on va lancer des débats autour de ça, des échanges. On est dans un endroit magnifique qui est la librairie Tchan, au 125 boulevard du Montparnasse, et qui, du coup, est quasiment solaire, j'ai envie de dire, puisque si on trace un trait entre la librairie Tchan, le guichet Montparnasse où donc sera joué l'ambigu à partir du 14 mars et le cimetière Montparnasse qui est juste à côté où repose Roland Topor, on fait un triangle presque parfait. Oui.
Là, c'est le côté mathématique, c'est plus le prof histoire géo et de français qui parle là.
C'est ça, mais ça fait partie des signes. Voilà, des choses qui nous sont envoyées comme ça et qui sont belles.
Donc tu viens de dire où est-ce que ça joue? Enfin, ça joue à partir du 14 mars jusqu'à quand?
Jusqu'au 20 avril, donc tous les vendredis et samedis à 19h et le dimanche à 15h.
Après, il y a une suite qui est déjà programmée?
Oui, il y a une suite qui est programmée au Festival d'Avignon,
D'accord.
donc du 5 au 26 juillet. Ça sera à l'Archipel Théâtre,
D'accord.
qui est sur la rue de Loul, enfin ceux qui connaissent Avignon, le long des remparts, sur le côté ouest. L'Archipel Théâtre, et ça sera donc tous les jours à 10h50 le matin. On essaiera de prendre un petit déjeuner autour de Topor.
D'accord. Ok. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter?
Je sais pas, on dit quoi dans ces cas-là, toy toy,
Ah, toujours toy toy. Ah, on dirait toujours toy
toujours,
toy.
toujours toy toy. Pour, alors, je rajoute un tout petit mot pour la librairie Chan. Si vous voulez venir, effectivement, ce soir, c'est à 19h. Il y aura en présence, il y aura l'équipe qui sera présente, c'est-à-dire Carmen Samayoa, la metteuse en scène, qui est à l'origine danseuse. Elle est d'origine du Guatemala. Elle a dû fuir, en fait, le Guatemala. À l'époque de la répression policière, elle a traversé le monde entier, en fait, avec le théâtre, la compagnie qu'elle avait montée, Teatro Vivo, pour se retrouver en Ariège. Et c'est une belle complicité qu'on a créée, elle et moi, en fait, autour de cette pièce. Elle aussi, intéressée par cette question de la masculinité. Voilà, donc Carmen. Et puis, il y aura aussi Chimeiro. Qui est danseuse, qui est spécialiste du théâtre kabuki et de la danse Nihonbuyo. Alors pourquoi? Parce que Carmen a eu l'idée, on ne voulait absolument pas travailler sur le travestissement. Il ne s'agissait pas pour nous de se travestir sur scène. Mais comment représenter la féminité? Et Carmen a eu l'idée, en fait, de travailler autour du kimono et autour du travail, en fait, des onagata. Les Onagata, ce sont les hommes dans le théâtre Kabuki qui interprètent les rôles de femmes, qui se sont spécialisés dans les rôles de femmes. Alors, ils ne l'ont pas fait contre les femmes, pour dire que les femmes n'avaient pas le droit de jouer du théâtre Kabuki. C'est simplement que au XVIIe siècle, les femmes ont été interdites de jouer au théâtre. Donc, il fallait, pour les rôles féminins, trouver des hommes. Et les hommes se sont spécialisés donc dans ces Onagata. Et Chimiro est intervenue, en fait. On a fait appel à elle pour travailler autour du théâtre Kabuki, autour de la danse Nihonbuyo et monter une chorégraphie. J'en dis pas davantage. Et puis, il y aura également Reinhard Wagner, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a très bien connu donc Roland Topor, qui a travaillé avec lui sur plusieurs textes de théâtre, un petit opéra aussi pour enfants, et qui nous a fait l'immense plaisir d'écrire la musique de la chanson. Il y a une chanson, en fait. Il y en avait deux, mais on en a retenu une seule. Et donc, il nous a fait l'immense plaisir d'écrire cette musique pour cette chanson. Voilà.
Ok, ben parfait. Ben écoute, moi je voulais te remercier d'avoir pris ces quelques minutes pour nous expliquer tout ça. N'hésitez pas à aller faire un tour ce soir pour la dédicace, à partir du 14 mars pour le spectacle. Et puis venez en Avignon, vous aurez plaisir peut-être à croiser Fabrice. Et en plus, comment dire, à croiser les autres comédiens et tous ceux qui participent à cette belle œuvre. Merci à toi.
Merci à toi et au plaisir.